Planète Bleue, le mag. Benoît Prospero.
Bonjour, le monde va mal. Que faire ? Cueillez des plantes sauvages et mangez-les. Pourquoi ? Eh bien parce que la cueillette, c'est beaucoup plus que de la cueillette. C'est apprendre à s'émerveiller. Et bien plus que ça, c'est l'art de se reconnecter avec la nature et à nos semblables autour d'une bonne table. Ces mots, ce sont ceux d'un humain qui a consacré sa vie aux plantes sauvages et qui, aujourd'hui, nous invite à le suivre à la découverte d'un monde dans lequel nous vivions durant la quasi-totalité de notre histoire sur Terre. Et cet humain, c'est l'ethnobotaniste pionnier de cette discipline en Europe et auteur du livre « L'art de la cueillette » publié aux éditions « Les liens qui libèrent ». Bienvenue dans Planète Bleue, le mag, le magazine du climat et de la biodiversité. Merci d'être avec nous. Bonjour François Couplan.
Bonjour.
Pour la plupart d'entre nous, une plante sauvage, c'est un truc qu'on trouve dans la nature et c'est un truc qui sert, par exemple, à embellir nos cartes postales quand on part à la montagne ou à la campagne. Bref, c'est une sorte d'objet de décoration. De toute façon, peu importe, puisque les plantes sauvages, ça ne pousse pas dans les supermarchés, donc on ne les mange pas. Et pour vous, François Couplan, en une phrase, c'est quoi une plante sauvage ?
D'abord, c'est un être vivant. C'est un être vivant avec lequel personnellement je développe une relation forte, et d'autant plus fort que cet être vivant, il pousse tout seul. Personne ne l'a planté, il ne dépend pas d'autre chose que de son environnement, ce qui est déjà très, très fort. En ce sens, il est différent.
Il est curieux ce terme sauvage, on l'utilise pour faire peur d'habitude le mot sauvage. C'est injuste quand même pour une plante sauvage.
C'est culturel, hein. Moi, le mot sauvage, il m'a toujours plutôt attiré, je dois dire. On m'a souvent traité de sauvage depuis que je suis petit, hein. Donc je me sens assez proche de la plante sauvage.
Et vous écrivez à ce sujet, je voudrais démontrer ici que la cueillette représente bien plus que de simples balades dans une nature qui, d'ailleurs, n'existe pas en tant que telle, puisqu'elle a été modifiée par l'homme au point de ne plus être naturelle et qu'il n'y a guère que les Occidentaux pour croire en ce concept de nature.
Oui. La nature, c'est une vision, et une vision qui est très soit attirante, soit repoussante. C'est quelque chose qui a ces deux aspects. La nature, pour moi, c'est un paradoxe. C'est-à-dire, c'est là où on ne sent pas la présence humaine, et pourtant, moi, je suis humain, donc forcément, j'y suis. Mais c'est justement le lieu, pour moi, où on peut transcender notre dualité, cette incarnation dans laquelle nous vivons et qui nous pose pas mal de problèmes. Donc, on peut trouver des solutions à nos problèmes grâce à notre relation avec la nature. Et pour moi, avec ces éléments vivants de la nature, que sont les plantes.
Et vous écrivez aussi, d'ailleurs, cueillir les plantes sauvages pour s'en nourrir change totalement son regard sur le monde. Pourquoi ?
Ça, j'en suis persuadé. Pourquoi ? Parce que vivre, c'est se relier. Et le problème, l'une des bases, en tout cas, des problèmes que nous avons, à mon avis, c'est que nous ne nous relions qu'à de l'humain direct ou transformé. Or, là, nous avons l'occasion de nous relier à autre chose, à quelque chose qui est justement, comme nous disions tout à l'heure, sauvage, spontané, libre. Nous sommes en quête de liberté. Où est-ce qu'on va la trouver, la liberté ? La liberté, moi, je la trouve dans ma relation avec les plantes, donc, on va dire, dans la nature.
Vous pensez quoi de l'alimentation qu'on propose aujourd'hui ?
Je ne sais pas exactement ce qu'on propose. Je vois à peu près ce que mangent les gens. Quand je dis les gens, évidemment, c'est très général. Je pense pas que ce soit tellement bon, en fait, sur tout ça. Je pense pas que ce soit tellement bon. Puis il y a des implications, évidemment, que je pense que tout le monde connaît. Je parlerai pas d'alternative, mais d'autres façons de concevoir sa manière d'être au monde qui commence par apporter à son organisme les éléments dont il a besoin. Et donc, encore une fois, pour moi, les plantes, là-dedans, elles jouent un rôle primordial.
Et François Couplan, votre livre m'a permis de me rappeler aussi que pendant 96% de la vie de notre espèce, la cueillette des plantes sauvages a formé la base de notre alimentation. Alors comment on est passé d'une alimentation saine, très riche et de saison, à une alimentation composée de pesticides très peu variés et ultra transformés ? Eh bien vous allez comprendre. À tout de suite dans Planète Bleue, le mag sur France Bleu.
Planète Bleue, le mag.
Benoît Prospero.
Et pour tout nous dire, nous sommes avec l'un des plus grands ethnobotanistes, François Couplant. Et grâce à vous, François Couplant, je me suis rappelé que pendant 96% de la vie de notre espèce, la cueillette des plantes sauvages a formé la base de notre alimentation. En fait, si l'on regarde l'histoire de l'humanité, on vient juste de la changer, notre alimentation.
Mais c'est bien que vous vous en souveniez, parce qu'il n'y a pas grand monde qui s'en souvient de ça. On a une mémoire très très courte quand même. Ça fait à peu près 10-12 000 ans qu'on n'a pas seulement changé notre alimentation, mais toute notre façon de nous relier au monde. Mais c'est vrai que ça a commencé par l'alimentation, plus exactement par la production de nourriture. C'est-à-dire que à partir du moment où on peut pas le dire comme ça parce qu'on n'a pas souhaité produire davantage, on n'a pas souhaité prendre le dessus sur les plantes pour les obliger à nous fournir davantage de nourriture. Ça s'est pas passé comme ça.
C'est quoi l'idée de départ, en fait?
L'idée de départ, moi je pense, c'est deux choses. C'est l'expérimentation. L'être humain adore expérimenter. Et là, quand on se sédentarise et qu'on voit que il y a des choses qui poussent, on a envie de les accompagner. Quand on se rend compte que c'est bon, qu'on peut en faire des préparations intéressantes, on se lance là-dedans, on développe ça. Quand on se rend compte qu'en plus on peut stocker ces grains de céréales et qu'on peut de cette façon acquérir une certaine richesse, ce qui veut dire du pouvoir, alors là on jouit parce que notre striatum là, il est content. En plus, c'est des glucides, c'est du sucre. En plus, on peut faire fermenter ça et faire de l'alcool. Ça donne du prestige. Donc vous voyez, ça apporte énormément de choses à un être humain normal comme l'étaient nos ancêtres.
Donc on a changé notre alimentation il y a environ 10-12 000 ans à peu près, avec l'arrivée donc de l'agriculture. Alors, c'était pas si bête comme idée au départ, ça simplifiait la vie d'une certaine façon. Problème, on a tellement simplifié qu'on a littéralement appauvri notre alimentation. Mmh. Et là, les chiffres sont sans appel, il suffit de vous lire, vous écrivez. Il est curieux de constater que sur les milliers de plantes comestibles existant dans le monde, qui représentent environ 80 000 espèces, nous ne consommons régulièrement que quelques centaines de végétaux, pratiquement tous cultivés, et guère plus d'une soixantaine dans nos pays européens. La concentration agroalimentaire est telle que 29 espèces végétales fournissent 90% de l'alimentation mondiale. Principalement, on consomme quoi aujourd'hui en France, en fait ?
On consomme des céréales. On consomme du blé, de l'orge pour faire de la bière en particulier. On consomme des pommes de terre, on consomme un certain nombre de légumes. On consomme des carottes, des oignons, des choses comme ça. Enfin, vous l'avez dit, vous m'avez retiré les mots de la bouche, on en comptera une soixantaine. C'est pas grand-chose par rapport à ce qui existe, et même rien que ce qui existe autour de nous spontanément et qui est tout à fait comestible.
Mais alors, quand on sait comme vous, quand on a une telle connaissance des plantes sauvages et des possibilités qu'il existe, et qu'on voit ça, qu'est-ce qu'on se dit ?
Qu'est-ce qu'on se dit ? Moi, je me dis, je trouve dommage que les autres ne connaissent pas tout ça, donc j'ai envie de leur apporter ce que je peux comme connaissance, parce que ça apporte de la joie, puis ça apporte de la santé, ça apporte du bien-être.
Il y a des personnes dans le monde qui vivent de la cueillette des plantes sauvages ?
Alors, qui vivent uniquement de cueillette de plantes sauvages et de chasse, puisque globalement les deux allaient de pair, du moins.
Chasseur-cueilleur.
Ouais, mais toujours est-il que des personnes qui se nourrissent partiellement de plantes sauvages dans le monde, c'est pratiquement toute la population à part nous. Je veux dire, les Crétois, j'ai passé énormément de temps en Crète, le véritable régime crétois, c'est une consommation massive d'une centaine, voire davantage d'espèces de plantes sauvages. Et on sait, on a eu suffisamment d'études là-dessus, ça a même fait le buzz à une époque, on sait que ça fait du bien, on a des données précises là-dessus. Les Japonais, qui sont des gens encore plus technologiques que nous et vraiment à la pointe de la modernité, sont en même temps des personnes qui font partie d'une civilisation où la plante sauvage, les sansai, comme on dit en japonais, ont une place tout à fait honorable et tout à fait valorisée, contrairement à ce qui se passe chez nous où on les traite de mauvaises herbes, vous voyez. Et l'alimentation japonaise est une alimentation qui est très équilibrée, dans laquelle entrent non seulement des légumes plus ou moins classiques, un peu souvent différents et plus variés que les nôtres, mais également un certain nombre de plantes sauvages que les gens vont cueillir, même s'ils habitent en pleine ville.
Alors, on pourrait se dire malgré ça, finalement, chez nous, malgré ce qu'on dit, tout va pas si mal que ça. Globalement, on mange bien. Il y a une conséquence qu'on n'avait pas prévue. À tout de suite dans Planète Bleue, le mag sur France Bleu.
Planète Bleue, le mag sur France Bleu.
Et Planète Bleu Le Mag continue aujourd'hui. On change notre regard sur le monde grâce aux plantes sauvages. Et pour ça, nous sommes avec l'ethnobotaniste François Couplan. Et avec vous, on a donc vu que pendant 96% de la vie de notre espèce, la cueillette des plantes sauvages a formé la base de notre alimentation. Et il y a environ 10-12 000 ans, c'est-à-dire hier à l'échelle de l'histoire de l'humanité, avec l'arrivée de l'agriculture, tout a changé. Alors on pourrait se dire, bon, après tout, pourquoi pas ? On mange, tout va bien. Oui, sauf que il y a des conséquences qu'on n'avait pas prévues. D'abord, oui. Quelles sont les conséquences de notre alimentation sur la biodiversité ?
Notre alimentation entraîne nos choix alimentaires, entraîne des choix de production de notre alimentation, donc un système agricole qui est par essence destructeur de l'environnement, puisque la révolution néolithique est basée sur la culture de céréales qui se fait dans des champs et non pas dans des forêts. Si on avait fait un autre choix, ce qu'on aurait pu faire, eh bien on aurait pu avoir une production alimentaire qui nous nourrirait tout aussi bien, peut-être tout aussi mal d'ailleurs, mais ou peut-être mieux, mais avec, comment dire, un impact beaucoup moindre sur l'environnement et sur la biodiversité. Je prends l'exemple de la production de glucides. Glucides, on a choisi d'obtenir des glucides à partir du blé. On aurait pu, comme le faisaient les Indiens d'Amérique du Nord, par exemple, ou les Jomons au Japon, choisir d'avoir comme source de glucides des glands. Des châtaignes, on l'a fait un petit peu, mais ça a été dévalorisé, là. Également, des marrons d'Inde, les jomons utilisaient des marrons d'Inde, par exemple. Alors, ce sont des plantes très riches en glucides, mais qui sont riches aussi en autres substances non alimentaires, même plutôt toxiques, comme les tanins chez les glands, les saponines chez les marrons d'Inde. Les châtaignes, non, pas trop de problèmes, d'ailleurs, les châtaignes, en fait. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut tenir compte, pas seulement de l'efficacité, pas seulement du goût, pas seulement de l'effet sur la santé, mais aussi de tout l'aspect culturel et de l'aspect en particulier statut social. Et ça, c'est très important.
François Couplan, ça fait combien de temps que vous consacrez votre vie aux plantes sauvages ?
Ah, que j'y consacre ma vie, ça fait 74 ans.
Et
c'est mon âge.
C'est ça, c'est-à-dire que ça vous a toujours passionné. Depuis 74 ans, est-ce que vous percevez des changements quand vous vous baladez dans la nature ?
Honnêtement, pas tellement. Pas tellement, non. Je trouve que la nature est toujours maltraitée, extrêmement maltraitée, que dans d'autres endroits, on lui fiche la paix et elle se débrouille très bien. Donc, dès qu'on relâche un petit peu la pression, la nature, elle est là, elle répond présente et puis elle se débrouille comme une grande. Moi, j'ai pas de problème. Moi, j'ai mal à la nature, personnellement, parce que ça me touche de voir la façon dont... Enfin, je sais pas, quand on coupe une forêt, mais là, ici, on est à Paris, on est dans un joli studio, très bien, à peu près 0% de nature. On voit quand même dehors, c'est pas mal. Voilà. Mais ce que je sais, c'est qu'on est entre deux forêts, on vit entre deux forêts, on est dans une parenthèse en ce moment. Donc, moi, qui vis vraiment dans le moment présent, j'ai la perception de cette forêt d'avant et de la forêt à venir. Donc, je me sens personnellement tout à fait bien dans cette parenthèse.
C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, il y avait la forêt, il y a la ville, et après la ville, il y aura la forêt.
En substance, oui, ouais. J'y crois.
Ouais. Et vous écrivez aussi, ou plutôt vous reprenez une citation d'Hippocrate qui dit « Que ton aliment soit ton médicament ».
Oui.
C'est quoi les conséquences, oui, finalement, de tout ça, de, oui, ce choix, de ces choix qu'on a fait sur la santé ?
C'est quelque chose qu'effectivement on sait, enfin en tout cas on a formulé depuis au moins l'époque grecque, qui n'est pas si lointaine que ça, hein, et qui est à la base de notre culture, mais qu'on a tendance à avoir oublié, c'est que toute action d'ailleurs a un impact sur la vie de l'être humain, et en particulier tout aliment a un effet sur sa santé. C'est, je crois que tout le monde le sait, il n'y a pas tellement à tourner autour du pot là.
À noter aussi vis-à-vis de ça que pour la première fois, et ça on ne le savait pas parce que ça n'existait pas avant, de plus en plus de jeunes adultes sont touchés par des cancers, bien évidemment. Alors c'est multifactoriel, mais notre mauvaise alimentation est l'une des causes parfaitement identifiées vis-à-vis de ça aujourd'hui.
C'est pas moi qui le dis, hein. Je n'ai pas les moyens de faire ces études, mais je lis et j'observe, j'y crois. Moi, pour moi, je ne peux étudier que moi-même et je sais que je mange beaucoup de plantes sauvages régulièrement et depuis bien longtemps, mais pas que, ne me faisons pas passer pour ce que je ne suis pas parce que je ne voudrais pas et que je me sens bien dans ma peau.
Alors, on va quand même souligner que ce que vous écrivez aussi, François Couplan, c'est « Sans doute pourrions-nous, sans grande difficulté, autre que conceptuelle, modifier notre façon de nous nourrir en vue d'une meilleure santé individuelle et planétaire. » Et vous nous direz dans un instant comment nous pourrions nous réinventer. A tout de suite dans Planète Bleu, le mag sur France Bleu.
Planète Bleu, le mag. Benoît Prospero.
Le monde va mal, que faire? Cueillez des plantes sauvages et mangez-les. Pourquoi? Eh bien parce que la cueillette, c'est beaucoup plus que de la cueillette, c'est apprendre à s'émerveiller. Et bien plus que ça, c'est l'art de se reconnecter avec la nature et à nos semblables autour d'une bonne table. Ces mots, ce sont ceux d'un humain qui a consacré sa vie aux plantes sauvages et qui aujourd'hui nous invite à le suivre à la découverte d'un monde dans lequel nous vivions durant la quasi-totalité de notre histoire sur Terre. Et cet humain, c'est l'immense ethnobotaniste pionnier de cette discipline en Europe et auteur du livre « L'art de la cueillette » publié aux éditions « Les liens qui libèrent ». C'est Planète Bleue, le mag, le magazine du climat et de la biodiversité. François Couplan, avec vous, on a donc vu que pendant 96% de la vie de notre espèce, la cueillette des plantes sauvages a formé la base de notre alimentation. Et il y a environ 12 000 ans, c'est-à-dire hier à l'échelle de l'histoire de l'humanité, avec l'arrivée de l'agriculture, eh bien tout a changé. Et même si au départ, ça partait d'un bon sentiment, ce choix nous a conduit à vivre dans un monde agro-industriel tel que aujourd'hui, seulement 29 espèces végétales fournissent 90% de l'alimentation mondiale. 29 espèces sur 88 000 espèces comestibles dans le monde. Et au-delà de ces chiffres, les conséquences de cette agriculture intensive sont la destruction du vivant et de la santé. Et face à ça, après avoir passé plus de 70 ans dans la nature, vous vous dites, sans doute pourrions-nous, sans grande difficulté autre que conceptuelle, modifier notre façon de nous nourrir en vue d'une meilleure santé individuelle et planétaire. Il nous faudra pour cela changer nos habitudes et notre vision du monde. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire?
Concrètement, ça veut dire commencer par percevoir les plantes qui poussent toutes seules avec d'autres yeux, avec un autre ressenti que celui qu'on a habituellement. Pour beaucoup de gens, je pense, les plantes qui viennent toutes seules sont des mauvaises herbes. Sont des mauvaises herbes, c'est-à-dire des plantes indésirables, des plantes qui poussent là où on ne voudrait pas qu'elles poussent, en particulier dans son jardin.
C'est vrai, on parle de mauvaises herbes.
On parle de mauvaises herbes. Effectivement, c'est quand même très connoté. On dit « ton terrain est sale, il faut me nettoyer tout ça ». Ça veut dire éliminer toutes les plantes qui sont autres que celles qu'on a délibérément semées, plantées et qu'on souhaite voir. Donc c'est quand même un acte de domination très fort, très destructeur. Voilà, maintenant on ne met plus de Roundup, bien sûr, on arrache à la main. Au mieux, on met sur le compost. Et puis, on se rend compte à partir d'un certain moment, peut-être, que certaines de ces plantes peuvent nous nourrir. Les chénopodes, les amarantes, la stellaire, par exemple, sont d'excellentes salades ou légumes cuits, etc. Alors ça, c'est très bien. Mais c'est que le point de départ. Moi, ce que je dis, si vous avez un terrain sur lequel vous avez des droits et que vous voyez des plantes qui viennent sur votre terrain, eh bien, essayez de, parfois, en tout cas, laisser vivre certaines d'entre elles, même si vous savez que ce ne sont pas des plantes comestibles, même si ce sont des plantes toxiques, même si ce sont des plantes qui sont moches, mais laissez-les vivre simplement parce qu'elles sont là. C'est un exercice facile à faire. Et bien ça, ça va vous changer votre façon de vous relier au monde, ça va changer votre vision de ce qui vous entoure. Et je pense qu'au final, c'est quelque chose qui est extrêmement puissant parce que ça peut véritablement modifier la façon dont notre société, dont notre civilisation se positionne. Et ça va aller de pair avec le fait évidemment, de se rendre compte de la générosité de la nature et des bienfaits que nous apporte le fait de se nourrir des plantes qu'on va cueillir autour de soi, au quotidien ou pas, ça dépend où on habite évidemment. Là je parlais des gens qui ont un jardin, mais les personnes qui vivent en ville, les personnes qui n'ont pas de terrain à leur disposition, ben, vont aller explorer. Et à Paris ou autour de Paris, ça regorge de lieux où on peut aller faire une récolte régulière de plantes sauvages en toute quiétude pour son environnement comme pour soi-même.
Alors on ne va pas bien sûr lire tout le livre parce qu'il est, il est extrêmement complet ce livre, mais ce nouveau système alimentaire, au-delà du jardin qu'on vient d'évoquer, globalement vous l'imagineriez comment ? De quelle façon on pourrait s'alimenter, se nourrir ?
Encore une fois, je vais parler de moi. On ne peut guère finalement parler que de soi-même.
C'est déjà pas mal.
Ouais, c'est déjà pas mal quand on arrive à se comprendre un petit peu. Et moi, je me connais plutôt bien. Je sais quels sont mes goûts. Je vois que ce que j'aime manger sont des choses qui sont simples. Un oignon, des carottes. On est dans des plantes cultivées, là ?
Oui, là, pour le moment, on est dans des plantes cultivées.
Voilà. Plein de plantes sauvages que je vais ramasser là où je suis en saison. Des pissenlits, des orties, des chénopodes, de la stellaire, de la bourse à pasteur, des lamiers. Enfin, j'ai une variété autour de moi qui est absolument phénoménale, même sur une superficie restreinte et ce à tout, pratiquement à tout moment de l'année, sauf quand il fait vraiment très froid. Voilà. Je vais faire revenir tout ça dans de l'huile d'olive, cultivée encore une fois, et j'ajouterai un morceau de fromage ou quelques anchois ou voilà, des olives, par exemple. Donc, moi, personnellement, la façon dont je vis les plantes sauvages, alimentaires, c'est généralement au quotidien, parce que ça, c'est mon quotidien, eh bien, je les vis en complément avec des produits que je vais acheter chez des gens qui adorent cultiver les légumes, et je trouve que c'est très bien.
Mais est-ce qu'on pourrait généraliser ça, si on le voulait ?
Moi, je le pense. Moi, je le pense sincèrement, parce que d'un point de vue équilibre nutritionnel, c'est faisable. D'un point de vue quantité de plantes sauvages existantes, à mon avis, c'est faisable. Je veux dire qu'à partir du moment où on prend conscience de l'importance des espaces sauvages utilisable, je dirais, eh bien, on aura moins envie de laisser s'ériger un nouvel immeuble, une nouvelle construction ou des parkings. Je crois qu'on vit d'une façon où on a encore suffisamment d'espace et où on peut accommoder cette complémentarité entre le cultivé, parce qu'il faut pas oublier que chaque fois qu'on mange des produits cultivés, des tomates, du pain, des pizzas, etc., eh bien, ça provient d'espaces qui ont été pris, je dirais pas volés, je veux pas aller jusque là, mais pris sur ce qu'on peut appeler la nature, en tout cas sur ce que j'appellerais moi des espaces sauvages. Donc, il y a si on trouve un équilibre dans son alimentation, on peut trouver aussi, et ça devrait aller dans le même sens, on peut trouver également un équilibre dans son environnement. Et je crois que c'est ce dont on parle.
Ah ben François Couplan, vis-à-vis de ça, ben moi je dois vous faire une confidence, c'est que ben j'ai un petit peu honte. Et je vais vous dire pourquoi. A tout de suite dans Planète Bleu Le Mag sur France Bleu.
Benoît Prospero, Planète Bleue, le mag sur France Bleu.
Et pour tout nous dire, nous sommes avec l'ethnobotaniste François Couplan. Et François Couplan, je dois vous faire une confidence, j'ai un petit peu honte. Et vous savez pourquoi ? Eh bien parce que je vis sur une planète qui, à moins que l'on ne démontre le contraire, est la seule planète dans l'univers sur laquelle on trouve la vie. Et quand je dis la vie, je parle d'un monde du vivant si extraordinaire que l'on peut parler d'un véritable miracle. Et je réalise, en parlant avec vous, que ben, je connais quasiment pas les plantes sauvages. Je ne sais pas où on les trouve, ni comment on les reconnaît, ni comment on les cuisine. Alors, je vais quand même me consoler en me disant que je fais partie d'une immense majorité. Et j'en viens donc à ma question. Comment vous expliquer que l'on se soit si éloigné du monde vivant, des plantes, au point que, pour les humains, ce monde vivant soit qualifié de sauvage, au point que l'on ne sache absolument plus ce que l'on mange ?
Ah ouais, c'est vrai d'ailleurs. C'est vrai, sauvage, sauvage, ça veut dire qu'on s'en distancie, parce que nous, on est civilisés, on n'est pas sauvage. Donc, dans les termes, effectivement, on marque cette différence. Bah, comment faire ? Comment faire ? Bah, regardez les enfants. Je veux dire, les enfants, spontanément, vous les mettez dans un espace où il y a des plantes, ils vont aller vers les plantes, ils vont les regarder, ils vont les tripoter, ils vont les sentir, ils vont les goûter, jusqu'à ce qu'un adulte bien intentionné leur dise « Attends, touche pas, c'est du poison, vous voyez ?» Donc, il suffit de pas frustrer les gamins, et puis ça ira tout seul. Seulement, pour pas les frustrer, bien sûr, il faut que nous ayons conscience et connaissance de ce que nous pouvons faire de la façon, encore une fois, dont nous pouvons vivre avec notre environnement sauvage.
Une parenthèse par rapport à ce que vous venez de dire. Vous parlez de attention de ne pas s'empoisonner. Vous dites des plantes potentiellement toxiques, en fait, il y en a peu.
Ah bah oui, il y en a peu.
Il y en a peu.
Bah heureusement, oui, quand même. C'est assez bien. Dans nos régions, en tout cas, il y en a peu. Et puis, dans toutes les cultures où les gens utilisent des plantes, même s'il y en a beaucoup, bah, ils les connaissent et ils les utilisent, je sais pas, pour faire des poisons de chasse ou des hallucinogènes ou des choses rigolotes comme ça, quoi.
Et vis-à-vis des enfants et des plantes, on doit bien admettre aujourd'hui qu'un enfant n'est pas capable de reconnaître ne serait-ce que 10 plantes. Et je dis un enfant, mais un adulte aussi.
Ah bah c'est parce qu'on l'a pas éduqué, mais je veux dire, les enfants ils retiennent vachement plus, vachement mieux que les adultes. C'est d'une facilité de travailler avec les enfants, c'est un bonheur quoi.
Mais si on fait un test, qu'on va interroger des enfants, qu'on leur montre des photos de plantes, ça sera plus simple. Je sais plus qui disait ça, un enfant aura plus de facilité à reconnaître 10 marques de voitures que 10 plantes.
Oui, bien sûr, bah c'est parce qu'il vit dans, le monde des marques de voitures et pas dans le monde des plantes. Mais si on lui laissait la possibilité de fréquenter les plantes aussi facilement que les voitures, il n'y aurait aucun problème.
Et alors, vous parlez de connaissances. Moi, j'ai envie de parler de transmission. Parce que, voilà, on va prendre une minute pour en parler. Okay. Vous avez trouvé une façon de transmettre.
Puisque, pour moi, c'est quelque chose qui ne concerne pas que quelques individus, mais qui touche toutes les personnes qui en ont envie, en tout cas. Voilà, donc ça veut dire diffuser le message plus loin. Et la technologie moderne, sous forme d'Internet, nous prête son concours. Et du coup, j'ai développé une formation sur 3 ans, en ligne, que tout le monde peut suivre, tout en travaillant à côté. Et qui va inciter chaque personne à sortir de chez lui ou chez elle et d'aller découvrir ses plantes, parce qu'il y en a partout, où qu'on soit dans nos bons pays, et ça marche bien.
Vous allez sur couplan.com, tout est expliqué, c'est très simple, et surtout ça donne envie en fait, d'apprendre des connaissances qui finalement sont normales, mais qu'on n'a pas.
Voilà. Mais c'est plutôt bien, et grâce
à... Mais c'est plutôt bien. Mais c'est formidablement bien. Voilà, couplan.com.
Planète Bleue, le mag, sur France Bleu.
Et Planète Bleue, le mag, c'est presque terminé. On a changé notre regard sur le monde grâce aux plantes sauvages aujourd'hui. Et pour ça, on est avec l'ethnobotaniste François Couplan. François Couplan, conclusion, pourquoi apprendre à s'émerveiller?
Parce que s'émerveiller, c'est la base de la vie. S'émerveiller, se relier aux autres, se relier à tout ce qui nous entoure, c'est ce qui nous fait vivre et nous sommes comme n'importe quelle bactérie, plante ou animal qui se respecte, on a envie de vivre simplement. Donc, on a envie de s'en donner les moyens. Et c'est un bon moyen.
Et alors finalement, on a beaucoup parlé des plantes sauvages, mais on n'a pas trop parlé du titre de votre livre, L'art de la cueillette. Vous dites qu'elle reste mal comprise et que ce n'est pas un truc réservé à quelques originaux un peu végétariens, passablement naïfs, certainement écolos, et en tout cas pas très sérieux. Alors c'est quoi pour vous l'art de la cueillette ?
Je pense que pour moi c'est la base de l'art de vivre, parce que, encore une fois, j'insiste sur cette notion de relation. Cueillir, c'est s'ouvrir à d'autres que nous-mêmes, d'autres que l'être humain. C'est déjà bien de s'ouvrir à d'autres êtres humains. Tout le monde y arrive pas forcément toujours très bien. J'ai parfois un peu du mal moi-même, je dois dire. Parfois, c'est plus facile de me relier aux plantes qu'à d'autres êtres humains. Mais je crois que c'est vraiment ce dont nous avons besoin, nous, en tant qu'espèce humaine, on va dire, c'est de pouvoir nous ouvrir à d'autres vivants non humains. On en parle beaucoup en ce moment, mais ça reste très conceptuel. Et quand on est dans la cueillette, c'est la relation aux vivants non humains, pratiques, concrètes. On a besoin de vivre, on a besoin de se nourrir. Mais c'est pas que ça. On a besoin de se nourrir, mais c'est pas seulement des nutriments, c'est pas seulement des ingrédients pour faire croître notre corps physique. Mais j'en reviens, j'aime bien ce terme de relier, quoi.
Et relier. Je vais prendre un petit peu le contre-pied de ça, François Couplan, question totalement matérielle. Du coup, comme vous cuisinez les plantes sauvages que vous cueillez vous-même, vous mangez pour beaucoup moins cher?
Alors, j'ai fait le calcul. Quand il y a eu le Covid, avec ma femme, on s'est confiné, on était en Suisse, mais on s'est auto-confiné par solidarité, et on descendait pas plus loin que notre jardin pour cueillir nos plantes sauvages. On allait de temps en temps faire quelques courses de base, vraiment de base. Et en 2 mois et demi, je crois, on a développé une 60aine de recettes qu'on a mis sur Internet pour partager avec tout le monde, etc., qu'on a inventées. Et on a calculé que sur la période, on s'était nourri à 2 pour environ 5 euros par jour. Donc, on fait des économies. Notre budget nourriture, à nous, il est... Alors, il est un peu développé parce qu'on aime bien aller au restaurant et boire des bouteilles.
Disons que vous avez rééquilibré vos budgets.
Ah ouais, sans problème. Ah, on a fait des économies, là, c'est sûr.
Et dans un autre registre, pourquoi la cueillette, pour vous, c'est un acte politique ?
Eh bien... Pour, je dirais, deux raisons fondamentales. La première, c'est que ça touche à l'alimentation. Donc l'alimentation, quand même, quand on est en bonne santé, on fait s'écrouler toute une partie du monde économique qui a une grande importance dans notre vie. Ça fait s'écrouler aussi une partie du monde économique, agricole. Donc ça a une incidence. Ça coûte beaucoup moins cher à la société. Et puis, d'autre part, également, ça change vraiment notre regard sur le monde, ça change notre nécessité de domination sur ce qui nous entoure, et ça, c'est quand même quelque chose qui est extrêmement puissant au niveau de l'ensemble du monde que nous créons.
Et on arrive aux questions qu'on pose à tous les invités. La première, la voici. François Couplan, vous, président de la République, la première chose que vous faites pour la planète, c'est quoi ? Ça vous fait rire ?
Ouais, ça me fait rire parce que la seule façon, à mon avis, de changer les choses, c'est par l'éducation. Voilà. Donc, ça serait de changer les programmes de l'éducation nationale et de rendre totalement obligatoire pour tous les enfants, les enseignants et même d'avoir des cours pour adultes sur les plantes sauvages et la façon de se relier au monde.
Ouais. Autre question qu'on pose à tout le monde, François Couplan, oui. Qu'est-ce qui vous rend heureux dans la vie ?
D'être ici avec vous, Benoît.
Et dernière question, on pose aussi la même à tout le monde. François Couplan, votre coin de paradis en France, à vous, c'est où ?
Ah, alors c'est dans les Alpes de Haute-Provence, sur la commune de Barème, en un lieu qui s'appelle le Haut-Tourjas, que j'ai acquis, faisant partie de ce système bien sûr, que j'ai acquis il y a une quarantaine d'années à peu près, et où j'aime bien passer beaucoup de temps parce que c'est un des endroits les plus sauvages du monde, du fait que les gens sont partis parce que c'était difficile de vivre dans ces montagnes, et que, je dois le dire, grâce à la technologie moderne et aux moyens que j'ai, je peux vivre de façon absolument heureuse avec l'électricité solaire, avec l'eau qu'on a fait venir avec un gros tuyau, et je suis très heureux d'y accueillir des gens dans mes stages, et généralement ils sont heureux d'y être aussi.
Le livre s'intitule « L'art de la cueillette », il est publié aux éditions Les Liens qui Libèrent. Et puis il y a aussi le site couplan.com et les réseaux sociaux Instagram, Facebook, Mastodon, encore YouTube. François Couplan, merci beaucoup.
Merci à tous en fait.
Et comme à chaque fois, on va se quitter avec la chanson pour la planète. Aujourd'hui avec un artiste qui en 2023, avec son 14e album qui s'intitule « À l'aube revenant », se livre sur son époque et notamment sur notre planète. Et comme c'est l'un des plus grands poètes français, forcément, on aime écouter ses mots. La chanson pour la planète, c'est Francis Cabrel. Avec Jusqu'au pôle sur France Bleu.
Devant le peu qu'il reste de banquise, de respirer, nos chances se réduisent. Notre climat se dérègle et s'affole. Je sais pourquoi la terre se réchauffe, c'est quand t'as sur toi de moins en moins d'étoffe. Et qu'une bretelle tombe de ton épaule, et là, les glaces glissent et fondent jusqu'au pôle. Déjeuner aux particules fines dans les fumées de l'Inde ou de la Chine, sous le ciel noir qui descend jusqu'au sol. Partout ça cuit, ça grille et ça déboise. Je sais ce qui fait déborder le vase, c'est quand doucement tes pudeurs s'envolent, et là les glaces glissent et fondent jusqu'au pôle. Accusés d'agresser la nature, chacun son train, son avion, sa voiture, jusqu'au lapin et sa lampe à pétrole. S'il est trop tard, autant trouver ça drôle, très drôle. Plus de plage en Atlantique, et qu'on surfera par-dessus les boutiques, qu'on n'ira plus nulle part sans nos gondoles. Si il reste un moyen d'éviter le pire. En bon citoyen, je veux bien le dire. Mais déjà tu t'approches et tes mains me frôlent. Et là les glaces glissent et fondent jusqu'au pôle. Tous accusés d'agresser la nature, chacun son train, son avion, sa voiture, et jusqu'au lapin et sa lampe à pétrole. Tous promis à une fin suffocante, il n'y a pas d'urgence plus urgente. S'il est trop tard, autant trouver ça drôle. Très drôle. Devant le peu qu'il reste de banquise, j'essaye l'humour, je tente l'esquive. Je vois bien que tout se dérègle et s'affole. C'est quelques mots pour dire pardonnez-moi de vous laisser la terre dans cet état, dans ce fracas de glaciers qui dégringole. Très drôle.
Dans Planète Bleue, le mag aujourd'hui, on a changé notre regard sur le monde grâce aux plantes sauvages. Et pour ça, nous étions avec l'immense ethnobotaniste François Couplan. Et le podcast de l'émission, c'est sur l'application ICI, ICI ou l'application Radio France. Et puis pensez-y, pour vous abonner à la newsletter environnement de Radio France qui s'appelle Il est temps et qui est totalement gratuite, c'est sur la page de l'émission Planète Bleue sur francebleu.fr. La Planète Bleue vous dit merci et vos infos juste après ça.